Je suis très heureuse donc que ce colloque se fasse sous l'égide de trois institutions, l'ABEX Aztec, Monsieur Philippe Hoffmann vous en parlera, l'École des hautes études en sciences sociales qui nous accueille ici et qui nous filme, entre autres, et qui nous nourrit aussi, entre autres, puisque vous avez un restaurant universitaire à côté, tout à côté, et puis enfin le Centre Coiré, auquel je suis fière d'appartenir, et qui est un laboratoire donc CNRS, EHESS et Muséum National d'histoire naturelle. Et donc là, nous allons tenter une opération, je crois, un peu inédite, qui consiste à parler des rêves de l'Antiquité au XIXe siècle, mais avec chaque fois des spécialistes de ces périodes, et pas seulement faire une sorte de grand historique qui balayerait à grands traits cette histoire. Et maintenant, je vais donner la parole à Monsieur Hoffmann pour le Labex Aztec, à mon collègue Jean-Marie Schaeffer pour l'École des hautes études en sciences sociales, et à Isabelle Sourbès-Verger pour le Centre Alexandre Coiré d'Histoire des sciences et des techniques. Et pour tout problème, disons plus matériel, les deux organisatrices, à savoir Juliette Lancel, ici présente, et moi, nous pourrons vous répondre. Voilà. Donc, Philippe Hoffmann, c'est à vous.
Merci. Mesdames et messieurs, chers collègues, c'est pour moi un honneur que d'ouvrir ce colloque qui a reçu le support du Labex Aztec. Le Labex Aztec, laboratoire d'excellence histoire et anthropologie des savoirs, des techniques et des croyances, est un nouveau venu dans le paysage de la recherche en France, et il a la particularité de conjoindre un nombre très important d'institutions, d'équipes de recherche. Nous ne comptons pas moins de 25 partenaires, ce qui, vous l'imaginez, pose des problèmes d'organisation, mais crée également une richesse et crée les conditions d'une certaine innovation en matière de thématique. Le projet de ce laboratoire d'excellence est de prendre sur la très longue durée, puisque nous allons principalement dans l'ère méditerranéenne et européenne, de la période de formation des écrits bibliques jusqu'au XXIe siècle, donc c'est l'arc chronologique majeur, nous essayons de prendre véritablement, au sens artisanal du terme, les trois termes, au pluriel, savoir, technique et croyance, dans une sorte de polysémie réglée, en essayant, à chaque fois qu'il y a des points de contact possibles, je dirais, de faire jaillir les étincelles qui peuvent émerger de ces frottements. Et à cet égard, le colloque qui a été conçu par Jacqueline Carroy et Juliette Lancel me semble s'inscrire très précisément au point de jonction de ces trois thématiques. Savoir et science des rêves, technique d'interprétation, croyance corrélative à ces expériences et à ces savoirs, nous sommes véritablement au cœur de la recherche initiée par le Labex, et je me réjouis profondément que ce projet ait pu être mis sur les rails aussi rapidement par Madame Carroy et par Juliette Lancel, qui est une doctorante du Labex. Notre laboratoire est en effet très attaché à recruter année après année un nombre significatif de doctorants qui se voient attribuer des contrats ainsi que des post-doctorants. Le projet a été principalement monté à partir du centre Alexandre Coiré, et il en sera question de manière plus détaillée, je pense, dans un instant. Mais il me semble se caractériser aussi, ce qui est un autre but de notre Labex, par une recherche de collaboration intellectuelle, de collaboration scientifique, de synergie entre diverses composantes du Labex, car notre méthode de travail, si vous voulez, consiste à essayer de mettre en relation des chercheurs qui, jusqu'alors, n'avaient pas nécessairement l'habitude de travailler ensemble. De manière extrêmement simple, et je pense qu'il faut toujours être très pragmatique, le rôle du groupe, du conseil de direction et du groupe de direction de manière générale du LABEX est en quelque sorte à la manière des marieuses, n'est-ce pas, de mettre en relation des gens qui peuvent se connaître parfois bibliographiquement, mais qui n'ont pas toujours eu l'occasion de penser et de chercher ensemble. Et à cet égard, il me semble qu'autour de cet objet rêve a été réalisée une réelle synergie entre les composantes de notre laboratoire. Par ailleurs, nous sommes aussi très attachés à ne pas fermer les LABEX sur eux-mêmes et à faire en sorte qu'ils soient le point d'organisation, si vous voulez, de réseaux plus vastes. Il me semble, là encore, que les invitations qui ont été faites, les appels à contribution, montrent la volonté de notre laboratoire de chercher à réunir autour d'un même objet des chercheurs appartenant à diverses institutions au-delà même d'Aztec. Et de ce fait, d'une façon au fond relativement simple à faire, nous avons réussi à construire un programme qui se caractérise par un arc chronologique très, très vaste, et c'est cet arc chronologique que je voudrais souligner, car c'est probablement le point sur lequel il y a ici une grande innovation, ont été mis en relation des spécialistes de littérature antique, de littérature classique et également des spécialistes du XIXe siècle. Je voudrais donc conclure très, très brièvement en remerciant vivement Madame Carrois et Juliette Lancel pour la construction de ce programme qui, au cours de ces deux journées, va nous permettre de voyager, je n'ose dire de vagabonder, depuis l'Antiquité, la période de l'Empire romain, jusqu'au XIXe siècle. Et j'espère profondément que de cette rencontre pourra émerger un livre original, car il me semble que cette recherche profondément diachronique est une nouveauté dans le paysage de la recherche. Je vais donc à présent me taire, et Jean-Marie Schaeffer parlera probablement davantage que je ne l'ai fait du fond des choses, et je vous adresse tous mes voeux pour les travaux de ces deux journées auxquelles je me promets moi-même d'assister assidûment.
Merci beaucoup, Philippe Hoffmann. Je voulais d'abord dire que je trouve que ce colloque est un exemple parfait de ce qui peut se faire lorsqu'on arrive à travailler ensemble. Puisqu'ici, il y a plusieurs institutions qui réussissent à se mettre ensemble autour d'un objet important. Et cela montre aussi comment les nouvelles structures, que sont les LABEX, peuvent jouer un rôle absolument fondamental dans l'organisation de colloques tel que celui-ci, donc qui est effectivement, et je crois qu'il faut y insister, un colloque très, très innovant. Je ne vais pas parler longtemps, parce que j'ai rêvé cette nuit que je devais, bien sûr, que j'ai dû dire quelques mots ce matin devant vous, et je me voyais ou je me vivais planté devant vous, et voilà, n'arrivant pas à prononcer le moindre mot, ne trouvant rien à dire. Tel était du moins ce que je croyais avoir rêvé lorsque je me suis réveillé, lorsque je croyais être en train de me réveiller, et je me demandais est-ce que c'était un rêve qui réactivait des souvenirs d'enfance angoissants, l'école ou pire, ou est-ce que c'était un songe prémonitoire. Pour parier à toute éventualité, j'ai préféré noter ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire ceci, que je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue à ce colloque qui a lieu à l'EHSS. Et je le fais au nom du président de l'école, François Hartog. Et je voulais remercier les organisatrices, bien sûr, Jacqueline Carroy et Juliette Lancel, pour l'organisation parfaite, semble-t-il, de cet événement, et surtout pour avoir choisi une thématique qui d'une certaine manière est la plus familière, mais pour avoir choisi de l'aborder dans une perspective qui elle n'est pas familière du tout, parce que le rêve et les songes, c'est sans doute ce qu'il y a de plus proche de chacun de nous, et en même temps c'est quelque chose qui nous demeure toujours un peu unheimlich. Car alors même que ça semble monter du plus profond de nous-mêmes, nous ne le maîtrisons pas, et cela nous rend en quelque sorte étrangers à nous-mêmes. Il n'est donc pas étonnant que les humains, dans toutes les cultures en fait, n'aient cessé de s'y intéresser. Ils le font encore aujourd'hui, et nous croyons souvent que nous avons beaucoup progressé dans la connaissance du rêve, comme nous disons. Mais malgré la psychanalyse et malgré la neurologie, je pense qu'en réalité, nous sommes toujours devant la même énigme. Et une manière de montrer que nous sommes devant une énigme est certainement de s'intéresser aux façons qu'ont eu nos prédécesseurs de penser la même chose. Et je crois qu'il est évident que, vu le peu que nous savons aujourd'hui, toute attitude condescendante à l'écart des clés des songes, qui sont le sujet plus spécifique de ce colloque, serait vraiment la malvenue. Le programme que de ces deux journées d'études montre que vous avez pris toute la mesure de la difficulté de l'objet, et aussi du fait que, comme toujours, et surtout ici, le diable ou le bon Dieu est dans les détails, c'est-à-dire non pas dans une vaste fresque, mais vraiment aller voir dans des situations historiques concrètes ce que nos prédécesseurs, ou presque contemporains aussi dans certains cas, ont essayé de faire de cet objet ou de ces objets tellement fascinants et tellement inquiétants en même temps. Je pense que les rêves restent des énigmes et nous restent incompréhensibles dans leur herméneutique profonde, et il est important de nous rapprocher de ce que d'autres humains ont pu penser au sujet de cet objet important. Donc je vous souhaite un colloque très réussi, et ne rêvez pas trop quand même. Et je voulais profiter, je l'ai oublié, de vous montrer le livre de Jacqueline Carroy, qui, elle ne va pas vous le montrer, donc je vous le montre, donc qui va paraître dans un jour ou deux,
oui,
le 4, donc Nuit savante, une histoire des rêves de 1800 à 1945, qui paraît, donc je fais de la publicité pour la maison, qui paraît aux éditions de l'EHSS, et qui est un livre splendide. Voilà.
Donc là, moi, je vous accueille et vous remercie tous d'être venus au nom du Centre Alexandre Coiré, dont je suis la directrice adjointe. Alors, pour reprendre ce que disait Philippe Hoffmann, l'ABEX, c'est un nouveau venu dans le champ de la recherche institutionnelle. Alors, le Centre Coiré n'a pas l'ampleur et la diversification du LABEX, mais lui, en revanche, est un vieux dans le paysage institutionnel, puisque, bon, donc, nous avons plus de 50 ans, mais c'est aussi un centre qui a beaucoup évolué par rapport au type de recherche que faisait son fondateur, et qui a un certain nombre de champs nouveaux. Et je dois dire qu'en faisant cet exercice auquel vous avez dû tous participer, merveilleux, qui est celui du rapport pour la ERES, qui est quand même un grand moment de bonheur pour tout le monde, ça nous a au moins permis de balayer, je dirais, la diversité de nos sujets d'études. Alors apparemment, d'après l'avis de nos tutelles, on a encore un peu trop balayé large la diversité, donc on va peut-être essayer de se restreindre. Mais c'est vrai qu'au Centre Coiré, outre les sujets scientifiques, les sujets d'études et techniques. Nous avons aussi la spécialité de faire des sciences humaines. Et là, je crois que le rôle de Jacqueline Carroix dans ce domaine a été quand même un rôle extrêmement important et fondateur. Et c'est donc avec d'autant plus de plaisir que finalement, on voit ce colloque être parmi les premiers que le Centre Coiré propose dans le cadre du LABEX. Et ça nous permet encore peut-être de renforcer quelque chose de différent avec l'apport de nouvelles forces, puisque nous avons maintenant Juliette Lancel qui est doctorante chez nous et dont nous sommes très heureux de profiter des compétences, de la bonne volonté et de l'enthousiasme, puisque je crois qu'elle a quand même beaucoup aidé Jacqueline à organiser ce colloque. Alors bien sûr, bon, entre les techniques et les croyances, il faut des étincelles. Alors moi aussi, j'ai essayé de trouver quelque chose d'un petit peu plus original à dire. Alors moi, je travaille sur les techniques spatiales. Donc bon, effectivement, ça fait des étincelles au moment des lancements. Bon, c'est pas terrible comme accroche, donc j'ai pas trop poursuivi dans cette voie. Après, j'ai regardé, il y a le songe de Kepler. Alors bon, ça vous apprendra rien parce que c'est pas tout à fait l'interprétation du songe de Kepler. Je pense pas que ça soit non plus au cœur de vos préoccupations. Donc à ce niveau-là, malheureusement, je ne vais pas avoir grand-chose d'important à vous dire, mais en revanche, je serai très heureuse de vous écouter et je pense que ce colloque, donc je ne vais pas retarder plus longtemps l'ouverture, est effectivement sans doute un premier pas dans une nouvelle voie qu'on va avoir à cœur tous de continuer à développer et auquel vous allez participer de manière absolument essentielle, puisque c'est finalement de vos contributions que naîtront les avancées sur ce sujet. Alors si j'avais une dernière recommandation, puisqu'on a la chance d'être filmer, ce qui est là aussi pour tout le monde certainement un grand moment de bonheur. Je pense que peut-être vous pourriez essayer de mettre certains extraits sur YouTube avec le mot voyance dans les mots-clés et je pense que ça ferait ressortir d'un seul coup énormément et le Centre Coiré et le HESS et le LABEX Aztec, ce qui nous amènerait certainement des nouveaux financements. Enfin bon, c'est une suggestion dont je vous laisse libre de faire ce que vous voudrez. Là-dessus, je cède la parole à des gens bien plus compétents que moi et je vous souhaite tout à fait bonne chance pour vos travaux et pour ces deux journées dont je suis sûre qu'elles vont être très fructueuses. Voilà.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vais donc vous proposer de commencer immédiatement nos travaux et Monsieur Vincent Barras de l'Université de Lausanne va nous présenter la première communication, le contexte médical du rêve dans la médecine grecque. Et je crois que nous allons avoir la primeur de la découverte d'un texte important. Monsieur,
merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. J'ai en effet l'honneur d'ouvrir et la tâche redoutable d'ouvrir ce colloque extrêmement intéressant par des considérations sur le rêve antique. Le programme a été ordonné chronologiquement et quiconque s'occupe d'antiquité est forcément condamné à passer dans les premiers. Je commencerai toutefois pas par l'antiquité, mais par des considérations émises par un médecin en 1806, il s'agit de Double, des considérations sémiologiques sur les songes. Ces considérations sémiologiques sont extraites du journal, sont publiées en 1806, donc dans un journal, le Journal général de médecine, de chirurgie et de pharmacie. Et ce sont une série de fragments qui paraissent dans ces années-là, par Double, au bout desquels, d'ailleurs, il rassemblera le tout en un volume qui sera sans doute le premier volume de sémiologie, puis sémiologie médicale, portant ce nom en langue française. Et ce fragment qu'il publie donc en 1806 vient après le fragment sur les phénomènes du sommeil. Voilà déjà en rapport avec l'Antiquité, puisque c'est le thème quand même de mon intervention, même si je commence par 1806, nous voilà donc déjà en rapport avec l'Antiquité, puisque c'est exactement la séquence adoptée par Aristote dans ses Parva Naturalia, dans ses petits traités d'histoire naturelle, où son traité ou son extrait sur les songes suit le petit traité sur le sommeil. Je cite le début du traité, du fragment de sémiotique de Double, considération sémiologique sur les songes. Dans notre dernier fragment de sémiologie, on a vu que pendant le sommeil, il se fait une concentration de la vitelle sur elle-même et que de là dépendent les principaux phénomènes du sommeil. Par une suite naturelle de cette concentration des facultés vitales, il se passe dans le système intellectuel une opération aussi remarquable en médecine qu'en psychologie. Indépendamment de toute influence actuelle de la part des sens externes, si l'on en accepte toutefois le tact, il se produit dans l'organe pensant une ou plusieurs idées, séries d'idées et de mouvements que l'on connaît sous le nom de songe. Voici donc posée la définition par un médecin au début du XIXe siècle de ce que c'est que le songe. Plus loin dans son article, Double remarque que jusque-là, l'étude des sources, jusqu'à lui, donc l'étude des songes, avait porté sur l'onirocriti, c'est-à-dire, je cite, l'intention d'expliquer et de prédire les événements, davantage donc sur l'onirocriti que sur le point, que sous le point de vue médical. Cependant, il continue, je le cite, « Il est aisé de voir que les songes, d'après les circonstances mêmes qui les déterminent, doivent bien plus contribuer à la connaissance de l'état de la santé qu'à l'indication des événements passés, présents ou futurs de la vie morale. » Et il en fait d'ailleurs à cette occasion la critique de l'onirocriti judiciaire qui, dit-il, par les meilleurs auteurs est considérée avec réprobation. Et je continue la citation, « Tandis que, guillemets, l'onirocriti médical, quoique peu avancé comparativement aux autres signes sémiologiques, peut fournir des données très précieuses pour la médecine clinique. Cette assertion, aux yeux des médecins surtout, n'a pas besoin de preuves, elle est constatée à la fois par le raisonnement et par l'expérience. » Et il fait ce que font tous les médecins de son temps, il se fonde ou il se réfère à la littérature antique, ancienne, disons. Hippocrate, Galien, Aristote sont les auteurs qu'il cite, auxquels il reproche d'ailleurs d'avoir relativement peu dit sur l'onirocriti médicale. En particulier, Galien, dit-il, je le cite, a commenté plus ou moins longuement les assertions d'Hippocrate au sujet des songes, sans avoir rien ou presque ajouté à la doctrine médicale des songes. Et il continue en énumérant un certain nombre d'ordres de rêves qui peuvent intéresser les médecins, et tout particulièrement l'ordre de rêve quatrième, je mets les trois premiers qui ne nous intéressent pas directement ici. Le quatrième est des ordres de songe, comprend ceux qui résultent de l'influence que reçoit l'organe de la pensée, des mouvements internes des fonctions animales, et particulièrement de la digestion, de la circulation, de la respiration et de la génération. Voilà, effectivement, ce qui, dit Double, doit retenir toute l'attention des médecins. Et dans une note de bas de page, d'ailleurs, il dit « Cet ordre de songe, les songes provenant donc des troubles de la digestion, de la circulation, respiration et génération, ce quatrième ordre de songe doit aussi intéresser les médecins dans la mesure où il a une analogie très forte avec le délire. Le voici ensuite citer un certain nombre de cas, et là, surprenamment, en dépit du fait qu'il est fustigé Galien, que je tenterai tout à l'heure de défendre, dont je tenterai de relever l'honneur tout de même, eh bien, il cite un certain nombre d'exemples que nous allons examiner plus longuement tout à l'heure, de Galien, d'Hippocrate, et en particulier d'un certain nombre d'auteurs qui, dès la Renaissance, ont repris ces mêmes exemples anciens. Je citerai pour le plaisir celui de Konrad Gessner, un médecin suisse. Je sais que Jacqueline Carrois nous en parlera demain. À la suite donc de ces exemples anciens, un certain nombre d'exemples de la Renaissance, Konrad Gessner, médecin suisse, a prédit, dit-il, sur lui-même la formation d'un anthrax au côté gauche de la poitrine, d'après un songe dans lequel il crut avoir été fortement mordu à cet endroit par un serpent. Camerarius, qui a recueilli cette observation, ajoute que Gessner en mourut au bout de 5 jours. Voilà toute une série de faits rapportés par les médecins qui eux-mêmes rapportent d'autres médecins, comme on le voit dans le petit exemple que je viens de citer, qui prouvent les avantages que le médecin peut retirer, selon Double, de la considération des songes. Toutefois, prudence, prudence, dit-il, il ne faut pas retomber dans les pièges, non pas de l'oniromancie, mais dans les pièges de l'uromancie, c'est-à-dire du mirage de la mire des urines. Je le cite encore, il convient d'indiquer de manière bien plus précise que l'on ne l'avait fait jusqu'à présent les songes qui, par leur nature, par les circonstances qui les déterminent, peuvent fournir aux médecins de nouveaux points de lumière pour le diagnostic et le pronostic des maladies. Ainsi conclut Double, toute une série, chaque tempérament doit indiquer au médecin du fait que chaque tempérament particulier, le lymphatique, c'est-à-dire le phlegmatique, le bilieux, le mélancolique et le sanguin, ont chacun sa catégorie de songe, et c'est ce qui doit fonder l'onirocrisie médicale. Voilà pour Double, dont on voit que il constitue à la fois un programme dans l'avenir. Il faut réveiller, si je puis dire, l'intérêt des médecins pour le songe. Et en même temps, cet intérêt, il vient de très loin, mais les anciens eux-mêmes ne l'ont pas suffisamment traité. Double se situe activement lui-même à la charnière entre un passé qu'il faut réactiver et un futur qu'il faut reprendre. On constatera, si l'on s'intéresse à d'autres médecins du 19e siècle, je prends un exemple de la fin du 19e siècle, René Artigue, un médecin dont la référence m'a été obligément fournie par Jacqueline Carrois d'ailleurs, c'est l'occasion de la remercier, eh bien, à la fin du siècle, écrit une thèse, essai sur la valeur sémiologique du rêve, pratiquement le même titre, en 1884 qu'en 1806 chez Double, où il reprend l'essentiel des arguments de Double en signalant le fait que les médecins auraient intérêt à se préoccuper de la valeur pronostique et diagnostique des maladies. Le programme de Double n'a donc pas, selon Artigue, été entendu au cours de ce 19e siècle, qui déplore encore le peu d'intérêt des médecins pour la valeur sémiologique du rêve et qui se réfère une fois encore aux autorités anciennes, Hippocrate, Galien, et sans citer cette fois-ci Aristote. Double, autrement dit, donc, nous offre un bon point de départ, ou d'arrivée si l'on veut, sur la question du rêve chez les médecins anciens, voire chez les médecins antiques. Et c'est cette tradition que je vais dérouler très succinctement devant vous maintenant. Tout commence, comme d'habitude, lorsqu'on s'occupe de médecine antique, avec Hippocrate. Et le corpus hippocratique, un corpus d'une soixantaine de traités, extrêmement hétérogènes dans leur contenu, dans leur forme, et aussi dans leur répartition tant géographique que chronologique, puisqu'ils s'étendent, ce corpus réuni au 1er siècle avant Jésus-Christ, voire plus tardivement à Alexandrie, est une compilation de textes qui sont écrits entre le 5e et le 2e siècle avant Jésus-Christ, ce qui fait quand même une série considérable dans le temps et également dans l'espace, provenant de tous les espaces de la Grèce de l'époque. Mais quelle que soit l'hétérogénéité de ce corpus, on trouve chez Hippocrate, ce corpus, fréquemment des rêves mentionnés et utilisés à la fois sous leur identité double. C'est ce qui caractériserait l'ensemble des mentions, qu'on retrouve donc dans plusieurs traités. Identité double des rêves, mentionnés tels quels, comme phénomène physiopathologique et indice diagnostique. Donc, multiples traitements du rêve dans le corpus hippocratique, et en particulier un traité entier, et c'est le premier traité médical sur les rêves que nous possédions, dans la tradition occidentale du moins, plus exactement un chapitre entier d'un traité qui s'appelle « Le régime » ou « Du régime ». C'est le fameux pour ceux qui le connaissent, bien sûr, le fameux traité qui, par ailleurs, a eu une vie indépendante au Moyen-Âge, qu'on appelait « De insomnis » parfois, le traité des songes, le chapitre 4 de ce fameux traité du régime. Les philologues se sont longuement interrogés sur le fait de savoir s'il s'agissait d'une adjonction, ce chapitre 4, aux trois premiers chapitres du régime, ou si, au contraire, On pouvait le considérer comme faisant partie du traité entier du régime. Actuellement, on est plutôt d'avis, Robert Joly, Jacques Joanna en particulier l'ont étudié et sont d'avis qu'il s'agit d'un traité complet et d'un chapitre quatrième des rêves, donc qui fait partie des considérations générales sur le régime de l'humain. Nous savons que ce traité est assez ancien dans le corpus hippocratique, il date de 420 avant Jésus-Christ. Il est également cité, l'ensemble du traité du régime et des considérations sur le rêve, par Platon. Donc un traité qui sans doute a eu son heure de gloire dans l'Antiquité et également plus tard, dans la mesure où le traité du régime a été un des traités les plus lus et commentés dans l'historiographie médicale ultérieure à partir de Galien et jusqu'au Moyen-Âge où de multiples manuscrits existent, signe de la diffusion relativement importante de ce traité. Donc un chapitre 4 qui a eu parfois l'honneur d'être considéré comme un livre séparé et intitulé Peri Enupnion au sujet des choses qui se passent dans le sommeil, des visions dans le sommeil. On sait que chez Artémidore, il y a une distinction entre Oneiros et Enupnion, donc le rêve prophétique Oneiros et le rêve physiologique Enupnion, ce qui se passe dans le sommeil. Et c'est bien le titre du chapitre 4, en tout cas tel que la tradition ultérieure l'a repris. Il s'agit donc du premier traité et d'un traité assez complet de plusieurs pages, ce qui n'est pas rien pour l'Antiquité, qui énonce une théorie matérialiste, on peut dire, du sommeil et du rêve, en ce sens qu'il attribue la causalité au corps, la causalité du rêve, au corps et à lui seul. Les phénomènes psychiques, de façon générale, dans ce traité et dans la partie 4 dont je traite maintenant, dépendent du corps. Selon les spécialistes, donc j'ai cité Joly également, un spécialiste allemand, Palm, qui a écrit sur ce traité, il y a une certaine intérêt des historiens de la médecine antique pour ce traité, eh bien les sources du traité, et là je ne fais que les reprendre, sont doubles. Il s'agit à la fois d'un traité médical ancien, antérieur, qui lui aurait préexisté, et un Traumbuch ordinaire, donc une double origine, double nature de ce traité, traité médical et Traumbuch, c'est les termes de Joly en 1960, Robert Joly, Traumbuch ordinaire, fortement influencé, je le cite, non seulement par l'astrologie babylonienne, mais encore par le système oriental d'interprétation des rêves. Donc, je ne traite pas ce côté, dont je ne suis d'ailleurs pas spécialiste, mais je note que dans ce traité, dans ce chapitre, d'emblée, il y a l'affirmation de deux types de rêves qui va parcourir l'ensemble de l'Antiquité, en particulier l'ensemble des auteurs médecins de l'Antiquité, deux types de rêves. Le rêve divin, dont il s'agit de se méfier, et je cite ici le passage en question, les rêves divins donc et les rêves de santé ou les rêves sanitaires. Alors je cite les deux catégories de rêves dans la traduction par Joly de ce chapitre 4 du régime 4. Pour les songes qui sont divins et annoncent pour les cités ou les individus des maux ou des biens, il existe des interprètes qui possèdent l'art d'en juger. Mais les rêves par lesquels l'âme annonce les affections du corps, excès de plénitude ou d'évacuation des substances naturelles ou évolution vers un état insolite, ils les jugent aussi. Mais tantôt ils tombent juste, tantôt ils se trompent, et dans les deux cas, ils ignorent la raison du fait, aussi bien quand ils tombent juste que quand ils se trompent. Ils se bornent à recommander des précautions pour éviter quelque mal, mais ils n'enseignent pas comment il faut prendre ces précautions, ils invitent seulement à prier les dieux. Prier est une bonne chose, mais tout en invoquant les dieux, il faut s'aider soi-même. Petite remarque ironique de l'auteur matérialiste du traité qui dit « il y a des rêves divins, cela on peut les laisser aux prophètes, aux interprètes qui possèdent l'art d'en juger, mais il ne faut pas laisser à ces interprètes qui possèdent l'art d'en juger le soin des autres rêves, les rêves qui proviennent des affections du corps, les rêves par lesquels, je cite, « l'âme annonce les affections du corps ». Cela, ils doivent revenir au médecin. On verra que cet argument d'autorité reviendra, il revient sous la plume de double d'une certaine façon au XIXe siècle. Le fondement théorique donc de la théorie de ce traité, c'est que quel est le rêve pour l'auteur hippocratique ? Le rêve provient du fait que pendant l'éveil, l'âme au service du corps tourne ses perceptions vers l'extérieur de ce corps, alors que pendant le sommeil, elle tourne ses perceptions à l'intérieur de celui-ci. Elle y éprouve toutes les sensations du corps, lesquelles, à leur tour, constituent les images du corps. Autrement dit, le rêve est, grâce à l'accès de l'âme dans le corps durant le sommeil, le terrain où les symptômes de la maladie peuvent se manifester. Voilà ce qui fonde l'explication ou la volonté de légitimer l'action du médecin, voire de lui en accorder à lui seul le privilège d'agir à partir du rêve. Pour les rêves médicaux, donc ceux qui sont diagnostiqués comme médicaux ou sanitaires, le médecin appliquera une méthode analogique, et c'est la suite du traité dont je vous ai lu le début, ou du chapitre dont je vous ai lu le début, le médecin appliquera une méthode analogique au contenu du rêve, en fonction d'une analogie entre microcosme, ce qui est le corps, et macrocosme, ce qui est à l'extérieur. En quelque sorte, il inférera du visible, c'est-à-dire du contenu manifeste du rêve, vers l'invisible, qui sont les conditions intérieures du corps. Le rêve étant comme une sorte de radiographie qui permettra d'aller voir ce qui se passe dans le corps. J'ai développé un peu longuement l'argument théorique d'Hippocrate ou de l'auteur hippocratique du régime 4, dans la mesure où cet argument sera repris par les auteurs successifs. Je vais les traiter brièvement avant d'en arriver à Galien. Alors, les auteurs médicaux, pratiquement tous ceux dont on a des traces, mais nous n'avons peu de traces de beaucoup d'auteurs médicaux ou qui s'intéressent à la médecine ou qui parlent du rêve proprement médical. Mais d'après les traces que nous pouvons en avoir, on sait que la plupart d'entre eux s'y sont intéressés. On commencera par Aristote, qui, bien que pas médecin, est évidemment crucial là-dedans. Je ne vais pas le traiter en détail, mais rappeler qu'effectivement, il n'est pas très loin de l'auteur hippocratique que je viens de citer, et selon lui, dans son traité donc sur les songes, le rêve survient, c'est une image qui survient dans le sommeil, qui est engendrée par le mouvement de nos sensations. Là également, chez Aristote, bien que reconnaissant à mots couverts ou avec réticence la capacité du rêve de prédire l'avenir, distingue aussi un rêve physiologique, si l'on peut dire, une image survenue dans le sommeil, engendrée par le mouvement de nos sensations. Un autre auteur médical plus tardif reprend cette question, ou en tout cas on a des traces de la question du rêve médical chez un autre auteur médical, qu'il s'agit d'Hérophile, médecin grec œuvrant à Alexandrie au IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui distingue trois types de rêves, et non pas deux comme chez Hippocrate, c'est ça qui est intéressant déjà, des rêves théopompemboi, qui sont envoyés par les dieux, des rêves physicoi, des rêves naturels, qui émanent de la capacité prédictive de l'âme, c'est ainsi qu'il les détermine, et des rêves syngrimaticoi, autrement dit, provoqué par un organe du corps. Et il cite comme exemple les rêves sexuels provoqués par une irritation des parties sexuelles. Ce thème-là donc évoque quelque chose que les médecins du XVIIIe ou XIXe siècle reprendront, à savoir la question de la pollution nocturne. Je ne m'étendrai pas sur ce sujet, même si ça ferait peut-être monter les actions de YouTube, hein, je ne sais pas. Et j'en viens après la série des médecins qui, sans doute, ont parlé du rêve, ou on le sait par des témoignages indirects, entre Hérophile et Galien. Je pense aux différentes écoles médicales ou sectes médicales antiques. On sait qu'elles font usage du rêve à des fins diagnostiques ou pronostiques, les empiristes et les dogmatistes en particulier. Et une seule école dans celles qui sont connues dans l'Antiquité refuse toute action ou interaction entre le médecin et le rêve, ce sont les pneumatistes. Mais ceci est une autre histoire. J'en arrive à Galien, qui d'ailleurs est la source de l'ensemble de ce que nous pouvons savoir entre Hippocrate et lui, pratiquement, puisque entre Hippocrate et lui, il n'y a pas de traité complet qui nous soit parvenu. Et Galien demeure ainsi, à ce jour, le seul médecin de l'Antiquité, après Hippocrate, à discuter de manière approfondie du mécanisme et de la physique des rêves. Il s'agit donc de notre plus importante source médicale antique. Et je vous ai distribuer ce que vous avez sous les yeux. Je ne sais pas si ça fait le tour et s'il y en a eu assez. Ce traité dont je vais commenter quelque peu quelques passages désormais. Ce traité donc de Galien, Diagnostic des rêves. À vrai dire, il s'agit vraisemblablement d'un fragment ou d'une compilation d'un traité perdu. Nous le savons parce qu'ailleurs dans son œuvre, Galien, qui donc vit au IIe siècle jusqu'au début du IIIe siècle après Jésus-Christ à Rome, mais qui est un médecin grec, qui écrit en grec, et qui a laissé une œuvre colossale, une vingtaine de volumes, dont une petite partie jusqu'à ce jour a été traduite dans les langues modernes, d'où l'intérêt de s'y plonger. Eh bien, Galien, dans d'autres parties de cette œuvre gigantesque, mentionne un traité qu'il aurait écrit, mais dont nous ne savons rien d'autre, sinon qu'il a été perdu. Et l'éditeur des œuvres complètes de Galien au XIXe siècle, Kuhn, qui est mentionné tout en haut du texte, a édité ce manuscrit qui en est peut-être le seul reste qui fait trois pages dans son édition et que vous avez ici traduit, je précise, pour la première fois en français, dans son intégralité, qui donc est une compilation ou un fragment d'un traité plus ancien. Il se trouve que ce traité, on sait qu'il a eu une très bonne diffusion au Moyen-Âge. Il n'y a pas moins de 13 manuscrits, ce qui est beaucoup pour un traité médical, qui existe dans les différentes bibliothèques, et à partir desquels un éditeur italien, c'est mentionné tout en bas, Guidirozzi a édité le texte grec à partir duquel j'ai donc produit cette traduction française. Ce texte est important parce que il constitue un excellent une sorte de le rêve médical pour les nuls, si je puis dire, de l'Antiquité, c'est-à-dire il résume à peu près tout la tradition médicale antérieure avec toutes les apories et toutes les ambiguïtés. Mais pour commencer du contexte, il faut savoir que Galien, nous avons la chance d'être bien renseignés sur des données biographiques à son sujet, c'est un personnage de l'Antiquité qui a corps et âme, qui a chair, disons, puisqu'il parle beaucoup de lui-même, ce qu'on lui a reproché par la suite, et cela dit, on a une énorme quantité de détails biographiques, et on sait dans sa biographie, qu'il a, dans sa propre biographie, que le rêve joue un grand rôle, le rêve divinatoire ou prophétique. Ainsi, son père Nikon, un architecte, ça il le dit dans un autre traité, aurait, lorsque Galien avait 16 ans, rêvé que Galien devait faire la médecine, et il dit à son réveil, « Tu seras médecin mon fils », ou quelque chose de semblable, et son fils, donc, c'est ainsi rapporté par son fils, un rêve qui décide de sa carrière de médecin. De même, à 21 ans, lorsqu'il est déjà un jeune médecin, il rêve, Asclépios lui envoie un rêve. Galien souffre à ce moment-là d'une sorte d'abcès sous le diaphragme, dans l'abdomen. Et Asclépios lui ordonne en rêve de se faire une saignée entre le pouce et l'index. Et au réveil, c'est exactement la stratégie et ce que tous les anciens pratiquent dans les temples d'Asclépien, eh bien, Galien fait de même, il suit cette coutume, et il le mentionne dans ses écrits, il se saigne au réveil, et il est sauvé. Et à 33 ans encore, autre anecdote autobiographique où le rêve joue un grand rôle, Asclépios Marc Aurèle, l'empereur, avait demandé à Galien de l'accompagner dans sa campagne contre les Germains, donc un honneur, mais Asclépios lui interdit de suivre Marc Aurèle, et Galien prudemment reste à Rome, et poursuit son œuvre médicale. Voilà donc des rêves qui infléchissent, en tout cas nous dit Galien, sa carrière, des rêves qui jouent un grand rôle dans sa propre biographie. Donc, compte tenu de ce contexte, on comprend que Galien est également fils de son temps et également soumis à la pratique des rêves, qui n'est pas seulement médicale, mais qui est celle que tout ancien romain du IIe siècle après Jésus-Christ et sans doute avant pratique, à savoir ou en tout cas a connaissance et y croit, c'est-à-dire le pratique, à savoir le rêve prophétique. Et c'est dans ce contexte-là qu'on peut lire ce fragment qui lui ne parle que du rêve médical, diagnostic du rêve, et c'est un traité à l'usage du médecin, que doit faire le médecin. Alors je vais très rapidement, non pas le lire avec vous, mais vous indiquer la structure. Le fait que ce soit un fragment est peut-être assez clair lorsqu'on regarde comment il est construit. Le premier paragraphe, je suis là la fragmentation en paragraphe qu'a proposé Guidi Rozzi. Une première phrase, le rêve et le songe, à mon avis, indiquent les dispositions du corps. Le songe est traduit ainsi enupnion pour le distinguer de onar, le rêve, dans ce texte. Et il utilise à deux reprises le terme songe enupnion. Et le traité, d'ailleurs, s'appelle Peri Enupnion, donc le même terme que l'on retrouvait chez Artémidore, que l'on retrouve chez Artémidore. Le songe, à mon avis, indique les dispositions du corps. Et le songe, c'est sans doute donc un fragment, le texte commence par Kai et le corps, et le songe, à mon avis, indique les dispositions du corps. On est bien en présence d'un fragment. Ça, c'est la première partie. Ensuite, vous avez d'emblée des exemples de rêves, c'est la deuxième partie. L'ensemble du texte est structuré, à mon avis, en sept parties. Ce sont les trois premières lignes après cet incipit. Quelqu'un qui rêve d'un incendie, quelqu'un qui rêve de fumée, quelqu'un qui rêve d'un orage, de la neige, de la glace et de la grêle. Voilà des exemples de rêves. Puis vient une partie, c'est le paragraphe suivant, qui indique en gros un rapport du contenu du rêve et des conditions corporelles. C'est déjà un élément théorique. Il faut prêter attention à la période et à la nourriture qui a été prise. Si par exemple quelqu'un rêve d'être recouvert de neige et que cela se manifeste au début d'un paroxysme avec frisson, tremblement ou refroidissement, il faut attribuer ce rêve à la période et non à la disposition du corps. Donc bien que convaincu que le rêve a à voir avec la disposition du corps, parfois le rêve ne peut ne pas avoir avec la disposition du corps, mais avec le moment, le kairos, c'est le terme grec, c'est-à-dire le moment précis où quelque chose a lieu. En l'occurrence, si l'on se trouve au début de l'accès du paroxysme d'une maladie, eh bien, c'est cela qui détermine le rêve et non pas la disposition du corps. Et si, en revanche, ce même rêve survient après la crise, donc à une autre période, à un autre kairos, eh bien, à ce moment-là, on pourra déduire du rêve l'état des humeurs prédominantes, en l'occurrence la froideur, tout en étant attentif, on le voit encore dans ce chapitre, au fait qu'il a ou non mangé des aliments phlegmatiques, c'est-à-dire des aliments qui provoquent la production de phlegme à l'intérieur du corps, puisque ces aliments peuvent, une fois contenus dans l'estomac, eux-mêmes susciter une impression, fantasia, c'est comme ça que je l'ai traduit, là, un rêve, en réalité, on devrait le comprendre comme ça, peut faire advenir un tel rêve, même si sa disposition du corps est similaire au rêve. Donc on voit les nombreux pièges qui attendent le médecin et l'importance de bien comprendre le rapport du contenu du rêve et des conditions corporelles qui en déterminent l'apparition. Puis vient ensuite une partie théorique qui va jusqu'au cinquième ou sixième paragraphe. Du fait que dans le sommeil, l'âme ne produit pas des impressions à partir des seules dispositions du corps, mais également à partir des choses que nous faisons habituellement chaque jour, etc. Voilà une partie qui explique la théorie. Ensuite, de quoi nous arrivons vers le milieu du texte à une série d'exemples. Je vous décris surtout le caractère disparate de ce traité et la relative difficulté. Cela commence par exemple, quelqu'un qui rêvait qu'une de ses jambes était devenue de la pierre. Puis vient un paragraphe suivant, le lutteur qui surnage dans un réservoir de sang et d'autres qui ont soif ou d'autres qui sont pleins de sperme et qui rêvent d'avoir des rapports sexuels. Donc toute une série d'exemples. Ensuite, de quoi vient de nouveau un paragraphe jusque près de la fin, jusqu'à « Et s'il en va ainsi ?» Un paragraphe explicatif ou deux paragraphes explicatifs sur les mécanismes du rêve. Le paragraphe qui commence par « En effet » aux deux tiers du texte va dans ce sens. « En effet, il est probable que lors du sommeil, s'étant rendu dans la profondeur du corps et s'étant séparé des perceptions extérieures, on retrouve la théorie qu'on avait vue chez Hippocrate et chez Aristote, donc rendu dans la profondeur du corps, eistosoma, c'est ça le terme, et s'étant séparé des perceptions extérieures, l'âme perçoit les dispositions à travers tout le corps, forme une impression, ou fantaisie, ou rêve, fantasia, hein, de toutes les choses auxquelles elle aspire, comme si celle-ci était effectivement présente. Et enfin, on revient à une série d'exemples à la fois entre théorie et pratique pour les trois derniers paragraphes, où il est indiqué que lorsque la disposition du corps ou diathèse du corps, puisque le terme grec est diathesis, je l'ai traduit par disposition, est légère et non chargée de superflu, eh bien, on rêve qu'on vole ou que l'on court très vite. À l'inverse, lorsque on a des humeurs de mauvaise qualité et putrides, on rêve qu'on séjourne dans les excréments et dans la fange. Et à l'inverse, lorsqu'on a des humeurs de bonne qualité, on rêve à des odeurs agréables. Donc on rêve par image, mais aussi par sensation corporelle. Voici donc la façon dont ce traité que vous avez sous les yeux est construit, un traité par fragments, mais qui contient tout de même une logique assez forte. Et si l'on se réfère à la tradition antérieure, on voit que l'on est tout à fait au bout d'une tradition et que cette tradition antique est magnifiquement synthétisée. Alors, à la différence d'Hérophile qui voyait trois types de rêves et d'Hippocrate qui en voyait deux, ici, Galien en distingue quatre. Si vous reprenez le chapitre qui commence le troisième paragraphe ici, vous voyez qu'il y a le rêve qui provient, donc cinq causes de rêve et donc cinq types de rêve. Le rêve qui provient de la disposition du corps, mais aussi, et je cite ici, hors du fait que dans le sommeil, l'âme ne produit pas des impressions à partir des seules dispositions du corps, premier type, mais également à partir des choses que nous faisons habituellement chaque jour, ainsi que d'autres que nous avons pensées, troisième type, et que de fait certaines choses sont prédites prophétiquement, mantikos, par la mantique, par celle-ci, et cela même est prouvé par l'expérience. Voilà donc les quatre types de rêves: disposition du corps, réapparition de pensées diverses, répétition d'actes quotidiens, et capacité mantique ou prophétique de l'âme. Il faudrait ajouter le cinquième type de rêve, cinquième cause de rêve, puisque non mentionné dans ce traité, mais que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Galien mentionne souvent, Asclépios, le rêve envoyé par le Dieu, par la divinité. Toutes ces quatre causes ou cinq causes font, et pour le médecin, et c'est là l'essentiel de ce message galénien à l'intention de ses contemporains, font toute la difficulté pour le médecin de s'y retrouver. Et vous avez l'exemple parfait de cette erreur. L'erreur dans l'interprétation du rêve est un topos. Et ici, Galien reprend cette notion-là. L'exemple qui commence par exemple, c'est vers le milieu. Par exemple, quelqu'un rêvait qu'une de ses jambes était devenue de la pierre. Et plusieurs de ceux qui étaient avisés sur ces matières jugèrent que le rêve concernait ses esclaves. Toutefois, cet homme fut paralysé à la jambe, alors que personne d'entre nous ne l'avait prévu. Voilà donc quelqu'un qui rêve qu'une de ses jambes est devenue de la pierre. Ce quelqu'un et les personnes avisées en ces matières, dont Galien lui-même, ont lu Artémidore, puisqu'Artémidore signale que lorsqu'on rêve que sa jambe se transforme en pierre, eh bien, cela concerne les esclaves, ou les serviteurs, en l'occurrence les esclaves. Eh bien là, le médecin aurait intérêt à être attentif à une autre cause possible, à voir celle qui provient des dispositions du corps. Et c'est bien ce que la réalité prouvera par la suite. Erreur de pronostic, puisque les avisés n'ont pas voulu se fier à ce qui est important, au diagnostic médical que ce rêve pouvait promouvoir. Eh bien, en réalité, cet homme paralysé à la jambe, et personne d'entre nous ne l'avait prévu. Hein. Donc Galien se met en scène pour signaler également ce qu'il en est. Alors, les autres exemples sont tous intéressants aussi, puisqu'on les retrouve dans la tradition, soit chez Artémidore, soit chez Hippocrate. Par exemple, le lutteur qui rêve qu'il se tient dans un réservoir de sang et qui surnage avec peine au-dessus du niveau. Voilà exactement ce qui est repris chez Rufus, un autre auteur d'ailleurs que je n'ai pas cité, et dans lequel il est clair qu'un lutteur qui est déjà quelqu'un qui a pléthore, qui est caractérisé par un tempérament pléthorique, c'est-à-dire avec un excès dans sa chair, eh bien, excès dans sa chair provenant d'un excès de sang, eh bien, lorsqu'en plus il rêve qu'il surnage à peine dans un bol de sang ou dans un réservoir de sang, eh bien, nous reconnûmes cette fois-ci, donc Galien de nouveau, qu'il avait un excès de sang et nécessitait une évacuation. Voilà un exemple tiré du passé et que les auteurs dès la Renaissance reprendront. C'est d'ailleurs cité par double l'auteur du 19e siècle que je vais mentionner, une citation en latin de double. Et d'autre part, l'exemple de ceux qui suent de manière critique, le paragraphe suivant, « Certains qui étaient sur le point de suer de manière critique rêvaient qu'ils se baignaient et nageaient dans des réservoirs d'eau chaude. » Là aussi, ce rêve, également cité par double au XIXe siècle, on le trouve chez Hippocrate et dans l'exemple du régime 5, où vous avez également le fait que le rêve, alors c'est traité de façon plus abstraite chez Hippocrate que chez Galien, puisque Hippocrate dit « lorsque l'on rêve ou un rêve parlant de nage dans un réservoir d'eau chaude indique que on est près du paroxysme de la fièvre, hein, de suer de manière critique. » Voilà quelques exemples, et les autres sont à l'avenant. Ils sont tous retrouvés dans la littérature antérieure. Ils seront tous repris peu ou prou dans la littérature postérieure. Un exemple de l'intérêt et de l'importance pour le médecin de savoir distinguer le bon grain de l'ivraie, à savoir de distinguer le rêve médical de celui qui ne l'est pas. Galien résume ainsi la tradition médicale qui distingue nettement entre rêve divin et rêve divin et prophétique, et les rêves corps ou les rêves corporels, lesquels reviennent, et c'est l'argument central du rêve médical. Le rêve médical revient au médecin, c'est presque une tautologie, puisqu'il est médical, il revient au médecin. Il revient au médecin, mais aussi, du coup, il revient au médecin de s'en charger et de les prendre en compte. Il y a une double obligation lorsque l'on considère, comme Galien, ses rêves corps. Ces rêves corps, vous voyez qu'ils ne s'adressent pas à n'importe quelle partie du corps. Ils s'adressent, comme il indique, à la profondeur du corps, puisque le mécanisme, c'est l'âme qui va dans la profondeur du corps. Je terminerai par une considération sur cette profondeur du corps. C'est une expression « eistovassos » ou bien « katatovassos » qu'on trouve ailleurs et dans plusieurs traités galéniens, déjà, qui exprime en général ou qui désire en général non pas quelle profondeur, mais une profondeur particulière, la zone abdominale, on dirait aujourd'hui. Hein. Les profondeurs du corps, c'est ce qui est le plus caché. On ne sera pas étonné de penser que le diagnostic par l'urine provient aussi de la volonté d'aller jusque dans les profondeurs du corps ou d'extraire des profondeurs du corps de la zone abdominale profonde, là où c'est tout en bas, c'est vraiment tout en bas. Kata désigne la descente à l'intérieur du corps. Eh bien, les uromantiques, critiqués par double, eh bien, font exactement la même chose que ce que font les médecins. Ils s'intéressent à ce qui provient du fond du corps. Et cela, de cette région du fond du corps, Platon y plaça son âme concupiscive. Galien a repris cette théorie. Et Freud reprit la tripartition platonicienne en moi, sur moi et ça, qui est exactement inspirée et plaquée explicitement d'ailleurs sur la théorie platonicienne des trois âmes que Galien, pour la troisième, plaça précisément dans les profondeurs du corps, que ce soit le foie, la région périnéale et les organes sexuels. En 1806, Double reprendra donc cette tradition, mais d'autres médecins et psychiatre en particulier, ou aliéniste, Esquirol aussi, cette tradition, en plaçant les passions intestinales ou abdominales comme à l'origine, non pas seulement du rêve, mais aussi de la folie. J'en ai terminé avec mon intervention et je vous remercie.
Je vous remercie beaucoup pour ce parcours et pour cette présentation du texte de Galien. Je pense que nous pouvons nous accorder 5 minutes de discussion, de questions, n'est-ce pas? Alors, une simple observation. Évidemment, votre intervention a à plusieurs reprises souligné la distinction entre les rêves prophétiques et les rêves corporels qui intéressent directement le médecin. Et en même temps, certains de ces rêves envoyés par les dieux ont aussi une finalité médicale. On pense par exemple, dans le cas du dossier d'Elius Aristide, à la façon dont, à plusieurs reprises, c'est Asclépios qui lui commande les bons traitements, d'une certaine manière.
Oui, alors évidemment, je n'ai pas mentionné Elius Aristide, qui est une autre source extraordinaire de la dimension médicale du rêve. Là, c'est un problème compliqué. D'ailleurs, Galien n'est pas vraiment explicite. On voit bien que dans ce petit traité, mais comme le statut de ce texte est complexe, une compilation ou fragment, on ne peut pas dire qu'il représente l'entier de l'opinion de Galien, qui par ailleurs a une longue carrière et qui donc peut varier d'un moment à l'autre de sa vie. Mais ailleurs, Galien est assez explicite sur la valeur des rêves d'Asclépios, puisqu'il les applique à lui-même, non pas dans une dimension médicale en l'occurrence, mais aussi. Donc ça n'exclut pas cette séparation entre rêves divins et rêves médicaux n'est pas une division qui exclut, et l'un pouvant être intégré à l'autre. Effectivement, Galien, et de ce qu'on peut savoir, la plupart des auteurs avant lui ont fait référence, ont utilisé les rêves divins pour à des fins médicales. Elius Aristide en est le parfait exemple d'un mélange, ou en tout cas d'une utilisation possible à des fins médicales, d'une première catégorie de rêves. Mais je crois que pour les besoins didactiques qui sont ceux d'un auteur d'un traité, il est important de trier le bon grain de livret. Mais vous pointez là sur le fait de l'ambiguïté ou de l'ambivalence des médecins, en tout cas de Galien, et sans doute déjà d'Hippocrate dans le petit passage que je vous ai lu. Le médecin ancien, si je puis dire, est embarrassé par, en tout cas au bout du compte, se trouve devant une aporie. Est-ce que si je tiens à ma théorie matérialiste du rêve, je ne peux rien faire d'un rêve envoyé par Asclépios. Enfin, c'est jamais dit comme tel, mais si je poussais le bouchon jusqu'au bout, c'est ce que je serais forcé de conclure.
Je ne sais pas si ma question est pertinente, mais n'y a-t-il pas une sorte d'analogie avec les débats autour des oracles? Je pense par exemple aux argumentations de Plutarque dans les dialogues pythiques, où il fait bien apparaître, au fond, deux modes d'interprétation s'agissant des oracles de la Pythie, une interprétation de type matérialiste et une interprétation par cause transcendante. Alors, il faudrait regarder si dans le vocabulaire ou les modes d'argumentation, il n'y a pas quelques ressemblances. Enfin, ce n'est qu'une idée qui me traverse l'esprit.
Constantin Macris, et de son utilité pour la recherche entre le corpus médical propre et les inscriptions des Pythores, les inscriptions où les gens racontaient ce qui leur était présenté en rêve au moment de l'incubation qui était à la fois religieuse et médicale. Est-ce que les deux corpus ont des recoupements permettant de jeter de la lumière dans ce type de traité comme celui que vous nous avez présenté?
Alors certainement, dans la mesure où dans la littérature médicale, vous voyez, elle n'est pas surabondante, cette littérature médicale antique. Hein, on est bien d'accord qu'il s'agit de 3 pages ici, des exemples répartis dans différents corpus et des mentions, hein, des références indirectes. En ce qui concerne... Mais il y a des croisements qui ont été faits par d'autres que moi, à commencer par Edelstein, qui a réuni l'ensemble des fragments des inscriptions à Asclépienne, et des cas se retrouvent de part et d'autre, enfin en tout cas des situations tout à fait semblables se retrouvent de part et d'autre, y compris d'ailleurs dans les... Alors il y a des comparaisons qui peuvent être faites et qui devraient être faites de façon systématique, d'ailleurs ça n'a pas été fait à ma connaissance, encore que Oberhelman, cet érudit américain qui a consacré sa vie peut-être au rêve médical ancien, elle l'a fait de façon assez approfondie. Il est clair qu'il y a en réunissant l'ensemble de la casuistique, par exemple, on a là un formidable champ de recherche.
Oui, RBEO. Oui, je voudrais juste signaler une autre traduction en français de ce texte de Galien, très, très intéressant, passionnant, que j'ai eu beaucoup de mal à identifier et à trouver. J'en avais trouvé une allusion dans un texte de Jacques Le Goff. Donc, c'est une La traduction s'appelle « Épitomée en quatre parties », édité à Paris, à l'Union latine d'édition, en 1962, volume 2, pages 5 et 6. Traducteur anonyme.
Zut alors, hein, je vous présenter une première. Merci de cette référence. Je connais cette édition, je n'ai pas pensé à y rechercher. En effet, l'auteur est anonyme, on ne sait pas d'où vient, mais je ne connaissais pas, je n'ai pas fait attention. Et je vous remercie de cette mention, même si ça casse un peu ma baraque, mais c'est comme ça.
Bien, je vous remercie beaucoup.